Bon, donc comme supérieur de la congrégation, j'ai la joie de vous accueillir tous, frères et sœurs, et en particulier le Père Elias et Myrna, qui nous rejoignent pour cet après-midi, leur souhaiter la bienvenue, et demander aussi au Seigneur qui comble de bénédictions cet entretien pour pouvoir grandir dans cet amour de Dieu et de la Vierge Marie. Et c'est aussi pour nous dans le cadre de cette année que nous voulons dédié particulièrement à la Vierge Marie dans notre congrégation, un moment tout à fait particulier, puisque au centre de la vie de Myrna et du Père Elias, il y a la Vierge Marie, comme au centre aussi de notre congrégation. Il vous a été remis, ou va vous être remis, une plaquette sur la communauté pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc si vous ne pensez pas qu'il allait y avoir autant de monde, parce qu'on m'a dit, bon, peut-être 100 personnes ou 150, mais bon, c'est bien plus que ce que l'on pensait et on en rend grâce à Dieu. Donc on va passer au milieu de vous pour ceux qui n'ont pas encore reçu la plaquette pour qu'ils puissent découvrir la communauté des serviteurs de Jésus et de Marie qui vous accueillent. Ben, sans tarder, je laisse la parole à Mylène et ensuite au Père Elias et à Myrna.
Bonjour à tous et à toutes. Un grand merci d'être venus de si loin pour certains. Et de plus près pour d'autres. Nous rendons grâce au Seigneur qui a permis cette rencontre. Je ne vais pas m'attarder très longtemps parce que je vais laisser la parole à notre sœur Myrna. Mais auparavant, je voudrais dire quelque chose. Voilà, aujourd'hui même se réalise le vœu de nos deux petits frères disparus. En effet, peu de temps avant leur départ pour l'éternité, frère Roger et père Luc m'avaient confié leur joie et leur désir de voir Myrna ainsi un jour reçue dans cette abbaye. Eh bien aujourd'hui, ça se réalise et j'en suis très heureuse pour ma part. Alors j'ai une pensée, une prière toute particulière pour eux. Voilà, je vais laisser la place à notre sœur et à Père Elias.
Bonsoir. Je m'appelle le Père Elias Zahlaoui de Damas, prêtre catholique, embarqué de force dans le phénomène que je vais vous écrire. D'abord un petit mot sur la Syrie. Vous entendez tous parler de la Syrie. C'est un pays à majorité musulmane qui compte 18 millions d'habitants sur à peu près 1,5 million de chrétiens de tous bords, catholiques, protestants, orthodoxes. Damas est la capitale de la Syrie. Damas compte à peu près 5 millions d'habitants, dont pas moins de 400 000 chrétiens de tous bords aussi. En Syrie, l'entente christiano-musulmane ne pose pas de problème, mais le conditionnement politique actuel et qui dure depuis bien plus de 60 ans risque de provoquer des remous. Dans une atmosphère de tension qui dressait certains fondamentalistes face au gouvernement depuis des années, depuis l'année 78, survient un phénomène dans un petit quartier de Damas qui s'appelle Soufani. Soufanié mesure à peine 130 mètres de long, 150 mètres de long, un quartier très modeste, mais qui se trouve à 200 mètres à vol d'oiseau de l'emplacement traditionnel de la chapelle où Saint Anani, premier évêque de Damas, a baptisé Saint Paul. Dans cette maison habite une famille, la famille Nazour. Une vieille dame avec ses trois garçons, l'aîné marié, habitant deux petites chambres face à la terrasse avec sa femme et ses deux enfants. Le second Nicolas, qui venait de se marier 6 mois avec Myrna, que vous voyez, avant le déclenchement du phénomène. Puis le troisième, Mounir. Mounir était célibataire. Je résume rapidement l'ensemble du phénomène sous ses différents aspects pour vous permettre ensuite de poser les questions que vous désirez à Mirna dans le temps qui nous est imparti. Le matin du 27 novembre 1982, une exsudation abondante d'huile a lieu sur une petite image de 8 cm sur 6 cm en papier ordinaire. L'image de la Vierge portant le Christ. Nicolas qui est orthodoxe et Mirna qui est catholique. Nicolas, de tempérament et de formation allergique à tout ce qui est clergé et église, réagit en fonction de son appartenance confessionnelle. Il téléphone au patriarcat orthodoxe. On lui envoie le vicaire du patriarche accompagné de deux prêtres, un évêque accompagné de deux prêtres. Il constate l'exsudation effective de l'icône, de l'image. Ils prennent un bout de coton imbibé d'huile, ils prient et ils se retirent. Ça a été le point de départ d'un mouvement de prière intense, groupant chrétiens et musulmans ensemble depuis 22 ans jusqu'à ce jour. Mirna est ici, mais la maison est ouverte à la prière. Et dans la gratuité la plus totale, la plus intransigeante. Autre aspect du phénomène, exsudation d'huile des mains de Mirna. Mirna, en prière, subitement, a de l'huile sur les mains. D'autres personnes ont eu des exsudations d'huile de leurs mains. À partir du 12 décembre 82, c'est-à-dire à peine 2 semaines après l'exsudation d'huile de l'image, on assiste à des guérisons miraculeuses, dont la première a été celle d'une femme musulmane sous les yeux d'un médecin athée. Médecin jordanien, réfugié politique, chrétien, mais athée. Ça l'a retourné complètement. Depuis lors, il a témoigné à plusieurs reprises devant la télévision française avec le père Jean-Claude Darigaud, devant la télévision canadienne avec M. André Rossorowski et devant d'autres. Il a témoigné du retournement qui s'est opéré en lui devant la guérison de cette femme musulmane. Des guérisons se sont suivies à la maison de la Vierge, comme on a pris l'habitude de l'appeler, et ailleurs. Le 15 décembre 1982, Mirna, en prière, se retire précipitamment et monte sur la terrasse. Là, elle s'agenouille. Et au bout d'un quart d'heure, elle lève la tête, elle avait le front au sol, elle lève la tête, elle voit devant elle une espèce de statue toute scintillante de lumière, et elle s'est enfuie. Le prêtre qui se trouvait là lui a conseillé de prier en lui disant « Mirna, la Vierge est une maman, et une maman ne fait jamais peur. Prépare-toi pour bien l'accueillir, peut-être qu'elle a quelque chose à te dire et à nous dire. » 3 jours après, Mirna voit de nouveau la Sainte Vierge au cours d'une seconde apparition, apparition accompagnée d'un message dicté par la Sainte Vierge en arabe. Pour la première fois dans l'histoire, la Vierge parle arabe. Et par les temps qui courent, ça fait drôlement réfléchir. Personnellement, j'y insiste beaucoup. 3 autres fois, la Vierge apparaît à Mirna. Le soir du 8 janvier 1983, le soir du 21 février 1983 et le soir du 24 mars 1983, les 3 étaient accompagnés de messages dont le dernier était centré sur l'unité de l'Église. La prière se maintenait. Vers la fin octobre 1983, nouvel aspect dans ce phénomène multiple, Mirna en prière avec la foule, subitement a le visage couvert d'huile, les mains couvertes d'huile. Elle perd l'équilibre, on la conduit au lit, et là devant tout le monde, au bout de quelques minutes, elle fait un signe de croix et se croise les mains sur la poitrine et elle s'absente. Elle s'absente complètement du monde extérieur. Et on fait venir toujours des médecins, dont certains la soumettent à des tests extrêmement durs. En fait, pendant ces moments qu'on a appelés extase, et elle en a eu 36. Mirna ne voit rien, ne ressent rien, n'entend rien. Au bout d'un moment qui peut varier entre 5 minutes et 1h30, Mirna ouvre les yeux, fait un signe de croix, on l'interroge si elle a vu quelque chose. Quelquefois, elle nous dit « j'ai vu de la lumière uniquement ». D'autres fois, elle a vu la Sainte Vierge qui lui a donné un message. On notait immédiatement les paroles que Mirna nous dictait. Cela s'est continué jusqu'au 31 mai 84. C'était le jeudi de l'Ascension. Ce jour-là, Mirna a une exsudation d'huile des yeux avant l'extase. C'était la première fois que ça se passait. Au bout d'un moment d'extase, Mirna ouvre les yeux et elle dit « Je l'ai vu, je l'ai vu ». Avant l'extase, elle avait dit au Père Joseph Mahalouli, qui accompagne le phénomène, « J'ai envie de voir le Christ ». Le Père Joseph lui dit « Tu le verras, mais il faut y mettre le prix ». Elle lui a dit « Quel prix ?» Le Père lui dit « Je n'en sais rien, c'est lui seul qui le sait ». Mirna ouvre les yeux. En pleine extase, elle crie « je l'ai vu » et puis elle replonge en extase. Et au bout d'un bon moment, elle ouvre les yeux, elle dit au Père Mahalouli « apportez de quoi écrire pour que je vous dicte le message que Jésus m'a dit ». Ce message commence par cette phrase « Ma fille, je suis le commencement et la fin. Je suis la vérité, la liberté et la paix. Je vous donne ma paix. » Je m'arrête ici pour ne pas accaparer le temps. Nouvel aspect du phénomène. Le 25 novembre 1983, c'est-à-dire 2 jours avant le premier anniversaire du phénomène, Mirna a subitement les 5 blessures au corps. Aux pommes, aux coups de pied, aux côtés. On a fait venir ce jour-là 8 médecins de toute spécialité. Les blessures ouvertes à 4h30 de l'après-midi sont cicatrisées totalement, sans laisser de traces, à 11h du soir. Les stigmates réapparaissent à 5 fois par la suite, mais à une date unique. Ce fut le jeudi Saint 84, le jeudi Saint 87, le jeudi Saint 90, le jeudi Saint 2001 et le jeudi Saint 2004, c'est-à-dire les années où les catholiques et les orthodoxes fêtaient Pâques ensemble. Ces années, les stigmates étaient accompagnés soit le jour même, soit le vendredi Saint, soit le samedi Saint, d'une extase. Et l'extase, en général, était accompagnée d'un message centré sur l'unité. Et à l'aube de Pâques, l'icône exsudée de l'huile. Quand les fêtes de Pâques étaient fêtées différemment par les catholiques et les orthodoxes, rien, absolument rien, ne se produisait. C'est pourquoi, entre l'année 1990 et 2001, Mirna n'a eu ni extase, ni message, ni stigmate, et il n'y a eu pas même exsudation d'huile de l'icône miraculeuse pendant 11 ans. Cette année, Mirna a eu une seule blessure et la replace. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de tuyauterie cachée, et pendant qu'ils démontaient l'image, l'huile coulait abondamment de l'icône. Ils ont demandé à Mirna de se laver les mains devant eux. Elle s'est lavé les mains, elle s'est essuyée avec des serviettes, et lui ont donné même des pochoirs en papier de leur poche. De nouveau, elle s'est essuyée, puis ils l'ont conduite au salon, et devant tout le monde, ils lui ont dit « maintenant, prie ». À l'instant même, les deux mains de Mirna se couvrent d'huile. Le médecin prend les mains de Myrna, les tourne, les retourne, il gratte les paumes des deux mains, puis les officiers lui disent « Alors docteur, il fait ce geste, Dieu est grand. » Pour un arabe, dire un tel mot signifie tout. Et nous avons su par la suite que ce rapport a été reporté aux hautes autorités du pays et la directive a été respectée autant que possible, tout ce qui se passe. Et je vous assure, le gouvernement syrien a eu un respect extraordinaire depuis la première minute jusqu'à maintenant. Bien des responsables sont venus prier, dont la plupart des musulmans. Je laisse maintenant à Myrna le soin de répondre à toutes vos questions, parce que certainement vous en avez.
La mission, quelle est la mission et pour quelle mission travaille-t-elle? Et comment vit-elle les messages au sein de sa famille? Et comment cela s'intègre, en fait, dans, je dirais, tout ce que l'on vit aujourd'hui au niveau de nos familles, hein, au niveau de la fraternité qu'on vit aujourd'hui pour vivre? Je crois que c'est important, au niveau de Myrna, de nous transmettre ce qu'elle reçoit et comment elle le vit.
Je remercie le Seigneur d'avoir permis cette réunion. Parce que c'est en son nom que nous nous sommes réunis. Je remercie tous ceux qui ont ouvert leur cœur, m'ont accueilli et invité à venir ici. Pour que je puisse rencontrer Dieu à travers vous. Je remercie Guy et Mylène qui sont le point de liaison entre vous et moi, que je considère comme ma famille ici en France. Et je crois que leur maison à Villeneuve-sur-Coudun est une réplique de Soufanié en France. Soufanié est un petit quartier à Damas. Quiconque va là-bas, il constate que c'est un quartier extrêmement modeste. Et la maison est plus modeste. Le quartier a une espèce de ruelle plus ou moins défoncée qui débouche sur un petit ruisseau dont l'odeur est fréquemment nauséabonde et un jardin plus ou moins bien, comment dire, bien aménagé, disons. Et pourtant le Seigneur a dit que cet endroit est beau. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a trouvé de beau dans cet endroit, le Seigneur. Pourquoi il a choisi ce coin? Pourquoi il a choisi l'Orient? Pourquoi il a choisi Myrna? En fin de compte, nous sommes tous appelés et chacun de nous a une mission. Et heureux est celui qui découvre l'amour de Dieu dans sa vie pour qu'il devienne son témoin. Tout a commencé petitement. Maintenant, c'est devenu une espèce de problème qui s'appelle le problème de l'unité. Tout a commencé avec une goutte d'huile. Puis cette goutte a grossi. Et elle a fait tache d'huile dans le monde. Exprimant le désir de Jésus et de Marie au niveau de l'unité de l'Église. Pourquoi de l'huile ? Mais l'œuvre de Dieu, ce n'est pas nous qui la discutons. Tout ce que j'ai pu faire dès la première minute, c'est de dire « Seigneur, prends ma volonté pour que ta volonté œuvre à travers la mienne. » Pourtant, ce me fut très difficile. Et une grande peur m'obsédait. La peur ne venait pas de Dieu. La peur que j'éprouvais était causée par les gens. L'intrusion des gens dans ma vie était telle que j'en avais peur. Leur curiosité me causait toujours des ennuis. Mais quand même, je croyais que les gens avaient raison, parce que moi-même, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Les gens intervenaient pour dire à Mirna comment s'habiller, comment se comporter, comment prier. Et surtout, ils m'ont dit qu'il faut à tout prix que je quitte mon mari pour aller vivre dans un couvent. Cela lui a causé de la peur. À elle et à son mari Nicolas. Et ils ont vécu un certain temps étrangers l'un à l'autre. Et ils croyaient bien faire. Jusqu'au jour où les extases de Marie m'ont fait comprendre autre chose. Dans l'une des toutes premières extases, Marie m'a dit « Ta vie conjugale restera telle qu'elle est. » Nous avons donc conclu, Nicolas et moi, que la Vierge nous rappelait la sainteté du mariage. Et nos relations conjugales ont repris entre Nicolas et moi. Mais quand même, les gens intervenaient toujours dans notre vie. Je faisais fréquemment ce qui plaisait aux gens, mais moi-même, je n'étais pas en paix. Je n'étais pas convaincu de ce que je faisais fréquemment, mais je voulais éviter d'être une pierre d'achoppement par rapport aux gens. Je me suis privé d'un tas de choses à cause de cela. Pourtant, je me disais pourquoi. Et elle se disait, si le Seigneur m'interdit quelque chose, tout chrétien devrait aussi se trouver en face du même interdit. Et pourtant, je continuais à faire ce qui plaisait aux gens. Puis un jour, Jésus m'a dit, au cours d'une extase, « Vis ta vie heureuse et indépendante. » Que les fatigues que tu as entreprises pour moi ne te brisent pas. Plutôt, réjouis-toi. J'ai éprouvé une joie inexprimable. Je me suis libéré des liens que les gens m'avaient imposés. J'ai commencé à rechercher la volonté de Dieu uniquement. C'est parce qu'il m'a dit cela. Je recherchais tout ce qui pouvait plaire au Seigneur et tout ce qu'il aurait voulu que je vive moi-même. J'ai éprouvé alors une paix profonde parce que c'est moi qui choisis. En pleine connaissance de cause. Et j'étais embarqué dans le phénomène. Au début, Myrna n'avait pas d'enfant. Son mari Nicolas aimait beaucoup les enfants. Il lui a proposé qu'elle aille voir un médecin. Il a refusé. Nicolas lui a dit, tu es la dernière personne à penser à cela. Peut-être que le Seigneur ne veut pas que nous ayons des enfants pour que nous soyons engagés pleinement dans cette mission. Et la réflexion de Nicolas m'a beaucoup réjoui. Car Nicolas, au départ, était très éloigné et de Dieu et de l'Église. Et Nicolas, face au phénomène de Soufanié, a connu une immense tension avant de basculer dans la bonne direction. Nicolas a l'habitude de répéter maintenant et depuis un certain temps deux mots très beaux. Le premier, je regrette l'époque où je vivais sans Dieu. Le deuxième, la mort pour moi était avant le phénomène la fin de tout. Maintenant, ce n'est qu'un portail vers la vie qui ne s'arrête plus. Il avait terriblement peur de la mort. Maintenant, il dit qu'elle soit la bienvenue. Car finalement, la mort, c'est la rencontre avec le Christ. Trois ans et demi après leur mariage, la Vierge a dit à Myrna, au cours de l'extase du 1er mai 85, ne crains pas ma fille, je te ferai un cadeau pour tes fatigues. Myrna n'a pas compris ce qu'était ce cadeau. Puis, ce cadeau, ce fut sa petite fille Myriam. Peu de temps après ce message, Myrna était enceinte. Et le cadeau, ce fut Myriam. Puis deux ans après, elle a eu un garçon, Jean-Emmanuel. Du moment que l'enfant est un cadeau du ciel, je me dois de considérer l'enfant comme une responsabilité que le ciel me confie. Et il nous est demandé de bien garder ce dépôt, ce cadeau. Malheureusement, aujourd'hui, nos enfants, dans l'ensemble, vivent en dehors de notre influence. Car dans l'ensemble, quand nos enfants avaient besoin de nous, on ne s'en occupait pas. Et quand on a grandi, c'est nous qui commençons à courir après eux. Nous oublions que quand ils étaient petits, les petits avaient besoin de nous. Et maintenant que nous grandissons, c'est nous qui avons besoin d'eux. J'ai compris quand j'ai eu des enfants que le Seigneur n'a pas choisi Myrna toute seule. Il a choisi une famille. Pour nous faire comprendre que l'Église doit être une seule famille. Et que la famille doit être une église petite et domestique. Et l'unité de l'Église, si elle peut se réaliser, elle ne le peut qu'à partir de la famille. Si donc la famille est bâtie sur l'unité et sur l'amour, elle ne peut qu'être témoin de l'Église de Christ. Mais la famille aujourd'hui, où est-elle? Les gens disent, nos enfants ne nous écoutent pas. Le Christ ne nous a jamais obligés à faire quelque chose. Il nous montre le chemin. Pour ma part, je ne peux pas dire à mon enfant, allez prier, alors que moi je reste à la maison. Je ne peux pas dire à mon enfant, à mon garçon, aime ta soeur, alors que je suis en conflit avec mon mari devant eux. Je ne peux pas dire à mon garçon, ne quitte pas la maison n'importe comment, alors que le papa est en dehors de la maison. Tout ce que je voudrais que mes enfants fassent, il faut que je le fasse moi-même avec mon mari. Car les enfants sont dans le cœur des parents. Surtout la maman. Et le papa doit partager avec la maman cette vie de famille. Car c'est la maman, en fin de compte, qui éduque et qui enseigne. Et c'est elle, comme on dit en arabe, qui rassemble. On dit en arabe, l'um, la maman, betlum, elle rassemble. Les deux mots. Le comportement du papa laisse beaucoup d'influence sur les enfants. Ce qui implique beaucoup de sacrifices de la part des parents. Mais avec cet esprit de sacrifice, il y a toujours une joie. Il faut à tout prix qu'on se sacrifie pour nos enfants, pour qu'ils apprennent à leur tour à se sacrifier pour leurs enfants.
Et
Il se peut que les parents soient vraiment des parents exemplaires, mais cela n'empêche pas les enfants de se laisser entraîner par d'autres exemples. Mais le jour où il constituera à son tour une famille, il la constituera à l'exemple de la famille de son papa et de sa maman. Et le Seigneur aime la famille. C'est pourquoi Jésus a choisi une famille aussi.
Et
il est devenu homme par amour pour l'homme. Il n'est pas venu pour telle ou telle personne, il est venu pour toute l'humanité. Les différentes communautés dans l'Église ne sont pas une erreur. Ils peuvent être une source d'enrichissement pour l'Église. L'erreur serait dans le manque de l'amour et dans la tiédeur de la foi. C'est pourquoi Jésus a dit au cours d'une extase, tâchez de voir la vérité profonde qui est au fond de vous-même. Et tâchez de voir dans quelle mesure vous réalisez l'unité des cœurs entre vous. L'unité vraie, c'est l'unité des cœurs. Mais d'habitude, on aime comme on voudrait aimer, mais non pas comme le Seigneur voudrait qu'on aime. L'amour est un don. Et le don est un amour sans limite. Il ne nous est demandé que d'aimer. Et d'ouvrir notre cœur pour accueillir les dons de Dieu. Les dons de Dieu ont pour source l'amour que Dieu a pour nous. On aimerait vivre en paix. Et il nous est facile de vivre en paix quand tout ce qui est autour de nous est paisible. Mais ce qui est difficile, c'est de rester dans la paix quand on est entouré de tempêtes. Mais il faut à tout prix croire que le Seigneur est au cœur de la tempête. Mais il nous est difficile d'y croire si nous n'avons pas la certitude que le Seigneur nous aime. Et Dieu souffre avec nous. L'amour est un don, et surtout quand ce don fait souffrir. Que de fois nous imputons à Dieu des choses qui nous arrivent. Surtout les choses qui nous font de la peine. On dirait que nous n'avons connu de Jésus que le crucifié. Peut-être parce que notre vie pullule de difficultés. Si nous tombons malades, il nous arrive de dire La faute en est à Dieu. Si quelqu'un meurt, on dit c'est Dieu qui l'a pris. Et si on est en face d'un pauvre, on dit c'est Dieu qui l'a voulu. Et si un accident arrive, accident de voiture ou autre accident, on dit c'est la volonté de Dieu. Au contraire, quand on est dans la joie, on n'impute pas cette joie à Dieu. On dit c'est le fruit de notre effort. Il nous est facile de demander à Dieu, mais il nous est bien difficile de le remercier. Le Seigneur nous donne beaucoup quand on le lui demande. Mais la joie profonde et vraie, c'est celle que nous éprouvons quand Dieu nous donne sans qu'on lui ait demandé. Mais fréquemment, on ne se rend pas compte que ce sont des dons de Dieu, parce que notre cœur est fermé à Dieu. Pour moi, par exemple, le Seigneur m'a accordé l'existence quand je le lui ai demandé, sans que je lui ai demandé. Il m'a donné des enfants sans que je lui ai demandé. Il m'a accordé de voir sa maman sans le lui avoir demandé. Et il m'a accordé de vous voir sans le lui avoir demandé. Dieu nous donne tant de choses pour lesquelles il faudrait lui dire merci. Quelquefois, le Seigneur prend son temps, mais il finit par donner. Peut-être pour nous donner la possibilité d'approfondir davantage notre prière. Peut-être pour éprouver notre foi. Peut-être parce que fréquemment, ce que nous recevons rapidement, on ne l'estime pas suffisamment. Peut-être aussi parce que ce que nous demandons n'est pas pour notre bien. Et la pensée de Dieu n'est pas la nôtre. Le Seigneur est capable de transformer la souffrance en joie si je le veux. Et il peut transformer le mal en bien si je le veux. C'est pourquoi la Sainte Vierge a dit, lors de son premier message, lors de la deuxième apparition, souvenez-vous de moi dans votre joie. Nous devons participer à la souffrance du Christ de même que nous lui demandons de participer à sa joie. Et n'oubliez pas qu'à la suite de toute souffrance, de toute croix, il y a la résurrection. Le signe de notre foi, c'est la résurrection de Jésus. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que l'Église fête sa résurrection à la même date. Soufanie n'est plus une question ni d'huile, ni d'extase, ni d'apparition, ni de stigmates. C'est une mission, un message. et la volonté de Jésus et de Marie et que leur volonté se réalise. Les signes que le Seigneur a donnés à Soufanié ne sont rien d'autre que les signes des preuves de son existence et de sa vie parmi nous. C'est le signe que le Seigneur continue à œuvrer au milieu de nous parce qu'il est amour. Il nous est demandé de vivre cet amour en dépit de notre faiblesse. Pour ma part, je crois que le Seigneur ne regarde pas tant nos faiblesses et nos péchés que notre cœur et nos dispositions fondamentales. Les relations, nos relations avec les gens ne sont pas celles que nous avons avec Dieu. Nos relations au niveau des hommes sont fréquemment imprégnées d'incompréhension, d'égoïsme, de médisance.
أكبر مشكلة بيعيشوا الناس اليوم هو الحكم على الآخرين.
La pire des relations qui existent entre les gens, c'est la condamnation les uns par rapport aux autres, le jugement de condamnation que l'on porte les uns contre les autres.
ولكن علاقتنا مع الله تختلف.
Tandis que la relation que nous avons avec le Seigneur, elle est bien différente.
علاقتنا مع الله فيها تكفير.
Elle est empreinte de sacrifice, d'amour, d'accueil de l'autre. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de s'approcher davantage de lui. Car plus nous nous approchons de lui, plus sa lumière éclate dans notre vie.
فبتكون أعمالنا شهود لانعكاس شهود لانعكاس حضور الله فينا.
Et ce que nous faisons ne peut être que le reflet de sa présence en nous.
واعلمي أن حمل الصليب لابد منه.
Le Christ lui a dit au cours d'un message, sache que le portement de la croix est inévitable.
مع الله. بدون الله الصليب لابد منه.
Avec Dieu et sans Dieu, l'homme est crucifié, il souffre.
ولكن مع الله الصليب بيقلب فرح.
Mais avec Dieu, la croix devient joie.
لأنه أكيد رح يحمل معنا.
Car c'est lui qui va porter notre croix.
ما رح يعطينا إلا يلي نقدر نحن نحمل.
Et le Seigneur ne nous demande pas au-delà de nos possibilités. Le Seigneur ne peut pas me demander plus que je ne peux. Avec Dieu, on est plus en paix parce qu'on a la consolation de sa présence. Mais en fin de compte, c'est nous qui décidons.
ولكن حتى اتعرف على ربنا اكثر لازم اتقرب منه.
Mais pour faire meilleure connaissance avec Dieu, il faut bien que je fasse l'effort de m'approcher de lui.
وجوده بيهذب النفس.
La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un éduque l'être humain.
وجوده بيعزينا.
Apporte consolation.
بخفف علي الحمل.
Allège les difficultés.
عشان هيك حضور الله بحياتنا كثير حلو.
C'est pourquoi la présence de Dieu dans notre vie rend notre vie belle quand même.
لأنه بيحول الحزن للفرح.
Il transforme la tristesse en joie.
بطلب منكم تصلوا لي.
Je vous demande de prier pour moi. pour que je sois fidèle à cette mission dont le Seigneur m'a chargé. Ce qui importe, ce n'est pas ce que nous faisons, mais ce qui importe, c'est que nous faisons ce que nous faisons avec amour. Quelque simple que soit le travail qu'on fait, aux yeux de Dieu, c'est toujours grand. Priez, s'il vous plaît, pour ma famille. Pour cette maison que le Seigneur a choisie, pour qu'elle reste ouverte dans la gratuité. Sans qu'on pose des questions à tout venant. Cette maison ouverte depuis 22 ans voit des chrétiens et des musulmans venir prier. Priez pour l'Orient, car l'Orient a beaucoup besoin de prières. Et c'est ce que le Seigneur a mis en relief dans son message du samedi saint 2004. Cramponnez-vous à votre authenticité orientale. Ne permettez pas que l'on aliène votre volonté, votre liberté et votre foi dans cet Orient. Conserver les valeurs de l'Orient. Ce n'est pas à dire que le Seigneur juge l'Occident. Mais il y a des valeurs en Orient qui sont de grande importance. Cependant, il y a un courant d'idées qui est en train d'éloigner ces valeurs de l'Orient. Il me semble que la valeur la plus grande que vit maintenant l'Orient, c'est la vie de famille et la foi simple. C'est pourquoi le Seigneur nous dit: revenez à la foi des apôtres. Ces apôtres qui étaient tellement simples. Ils se sont complètement abandonnés à la volonté du Seigneur sans y comprendre grand-chose. Il nous est demandé de vivre la simplicité des apôtres et la foi des apôtres. Nous prions pour que la blessure du cœur de Jésus soit cicatrisée. Parce que toutes les fois que Pâques est célébrée ensemble par les catholiques et les orthodoxes, le Seigneur envoie les signes, les stigmates, l'extase, le message et l'exudation d'huile. Mais en 2004, le Seigneur s'est contenté d'une seule blessure, une blessure au côté. Mais Jésus a qualifié cette blessure de blessure de son cœur. Et il a dit à Myrna, après l'ouverture de la blessure: voici la source où toute âme se désaltère. La blessure de mon cœur est la source de l'amour. Il y a une contradiction apparente. Comment une blessure peut être source d'amour? Quand mon cœur est blessé, il produit, je dirais, une espèce de dégoût.
يسوع مو ممكن جرحه إلا إنه يفيد حب لأنه هو كله حب.
Mais la blessure du cœur de Jésus ne peut qu'être source d'amour parce que Jésus n'est qu'amour.
وكأنه عم بيقول لنا شو ما عملتوا فيي ضلني بحب.
On dirait qu'il nous dit quoi que vous fassiez de moi, je continue à vous aimer.
ولح ضلني بحاجة لكم.
Et j'aurai toujours besoin de vous.
ولح ضلني أركض وراكم.
Et je courrai toujours après vous.
جرح قلبي هو ينبوع الحب.
La blessure de mon cœur est la source de l'amour. Quant aux blessures, c'est le mot de Jésus aussi, quant aux blessures, elles sont là à cause d'un crime que je n'ai pas commis. Jésus sur la croix a pardonné. Parce que ceux qui l'avaient crucifié ne comprenaient pas ce qu'il faisait.
ولكن جرح قلبه اليوم من أشخاص فهمانين وبيعرفوا.
Mais la blessure de son cœur aujourd'hui vient de gens qui le connaissent bien.
نصلي لحتى يلتئم هالجرح.
Nous prions pour que cette blessure se cicatrise.
وما بيلتئم هالجرح إلا باتحاد ولاده.
Et cette blessure ne peut se cicatriser que par l'union des cœurs de ses enfants.
نصلي لحتى تم وحدة الكنيسة.
Prions pour l'unité de l'Église.
مثل ما الله بده.
L'unité que le Seigneur veut.
نصلي من أجل المسؤولين بالكنيسة.
Prions pour le responsable en Église.
نصلي من أجل الدعوات الكهنوتية والرهبانية.
Pour les vocations sacerdotales et religieuses.
ونياب يلي بيطلع من البيت كاهن لأنه بيكون أساس في بناء الكنيسة.
Heureuse la maison qui donne un prêtre ou une religieuse à l'église. L'église aujourd'hui est vraiment pauvre de vocation. Et est pauvre de prêtres saints. Il a besoin de prêtres saints. Merci. Oui. Bon. Je laisse Myrna répondre. وشافت كيف تستقبلوا الناس انتوا مستغربين قدرتكم على استقبال الناس كل السنوات كيف تعملوا؟
لو القوة مننا كنا فرطنا من زمان.
Si tout dépendait de nous dans cet accueil de toutes les personnes, depuis longtemps on se serait effondré.
أكيد القوة ربنا عم بيعطينا إياها.
C'est le Seigneur sans aucun doute qui nous donne cette force d'accueil.
بيسألوني شو أكبر
Des gens me demandent quel est le plus grand miracle qui s'est opéré dans cette maison. Ils croient, les gens, que le plus grand miracle c'est l'huile ou la guérison des malades. Moi je dis le plus grand miracle qui s'est produit à Soufanié. C'est la permanence de la prière dans cet accueil. Ça va? C'est toute la famille qui est fortifiée dans cet effort, dans cette vie. À certaines dates, s'attendant à ce qu'il y ait une extase, Myrna éprouvait de la peur.
والرسائل كلها بتقول كم مرة يسوع العذراء قبل لا تخاف.
Et que de fois, aussi bien Jésus que Marie lui ont dit durant les messages, n'aie pas peur. Et quelquefois même ils ont dit au pluriel, n'ayez pas peur.
يلي حامل جوهرة مو مثل اللي حامل إزازة.
Celui qui porte une perle n'est pas comme celui qui porte un morceau de verre.
وأنا حامل جوهرة.
Moi je crois porter une perle.
لازم أمشي بخطوات ثابتة وبخطوات فيها انتباه لما تقع جوهرة من إيدي.
Et je dois faire des pas sûrs pour éviter que cette perle ne me tombe des mains. بتقول انه المرض عم بتقولي انت هو اختبار لحتى الرب يكبرنا، بس اوقات عم يكون شيء مؤلم.
عيد حياة
سي لافي ميم،
والمرض مش اختيار ربنا.
اي لا مالادي ني با اوفر دو دي،
مو ربنا اللي راده.
سي با ديو كي بو فولوار لا مالادي،
ولكن ربنا طلب انه نحمل هالشيء معه.
مي لو سينيور نو دوموند دو بورتي ce qui nous arrive au cours de la vie ou ce que nous provoquons pour nous-mêmes.
اكيد اكيد في في شيء بافكار ربنا نحن ما بنفهمها.
La pensée de Dieu est plus profonde que ce que nous pouvons imaginer ou sonder. Mais en fin de compte, c'est pour notre bien. La maladie est une grâce si nous pouvons l'accepter et vivre avec.
عشان هيك دائما بنشوف المريض عنده تعزية نحن ما بنفهمها.
C'est pourquoi il arrive à un malade d'avoir une consolation spirituelle que nous n'arrivons pas à comprendre. J'ai reçu cette question. Vous avez dit que le Seigneur voulait que nous revenions à la foi des apôtres. Vous l'a-t-il vraiment dit? On souligne le vraiment dit au cours d'une extase. Ou est-ce que vous pensez, est-ce ce que vous pensez de l'ensemble de ces messages? سؤال قلتي انه الرب قال لك لازم نرجع. قلتي انه الرب بده نرجع لايمان الرسل. هل هو قال لك هالشيء هذا او انت عم تستنجي؟
لا انا.
C'est une mire nature les conséquences des messages. Dans le premier message que Marie a donné à Myrna lors de la deuxième apparition, elle a dit fondez une église. Je n'ai pas dit bâtissez une église. Et le fondement de l'église, ce sont les apôtres. Et il nous est demandé d'être des apôtres. D'autant plus que dans le premier message, la Vierge a dit « Annoncez mon fils l'Emmanuel, qui l'annonce est sauvé, qui ne l'annonce pas sa voix est vaine. »
Est-ce que Jésus vous parle ce retour dans sa gloire?
Je vais répondre. Madame a demandé, est-ce que Jésus a parlé de son retour dans la gloire? Jésus a dit au cours d'un message cette phrase, que nous ne nous sommes pas expliqués totalement jusqu'à ce jour. Moi, j'ai été crucifié par amour pour vous, et je veux que vous portiez et supportiez votre croix avec amour, volontairement et patience, et que vous attendiez ma venue. Nous nous posons un tas de questions depuis ce message. Merci. Merci Pierre-Marie. Il y a une question que peut-être vous vous êtes posée et que beaucoup ont posée à Myrna. A-t-elle le pouvoir de guérir les malades? Je peux vous dire très simplement, un malade ne guérit pas un malade. Et nous sommes tous malades et nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Je participe à la prière des gens, mais je ne prie pas sur les gens. Et moi, j'ai plus que vous besoin de
prières.
Ayons foi dans le mot que nous répétons des dizaines de fois, que ta volonté soit faite. Merci, Père Jean, Pierre-Marie.
réalisé en nous par sa puissance infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même imaginer. Gloire à lui dans l'Église et dans le Christ Jésus pour toutes les générations, dans les siècles des siècles. Amen. Chaque pays et accorde-lui la paix.